de mieux envisager qu'est-ce que l'épopée. On a vu dans la première conférence qu'est-ce que c'était que le mythe. Donc on part des grands morceaux, on va dire, pour se petit à petit glisser vers les contes et vers les légendes et les chants, etc. Donc l'épopée, il y a déjà le mot lui-même qui est toujours un peu ambigu pour nous, parce qu'on a souvent dans le langage courant, bonsoir, je préfère vous laisser installer comme ça sera bien. Donc dans le langage courant, oui, on dit toujours que quelque part, on parle d'épopée napoléonienne par exemple, on parle de quel voyage épique. Donc ça, je dirais que c'est le langage courant qui nous ramène à quelque chose qui est souvent un gros moment de bravoure. C'est des choses qui sont des grands moments comme ça. Je dirais que c'est le côté populaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend après sur le plan littérature orale, ou sur le plan littérature, ou sur le plan définition réellement par rapport à l'épopée? C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'un poème narratif, d'un poème lyrique, d'un poème épique, mais de très 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 grande dimension. Je crois que ce qui va faire la différence justement avec le poème lyrique ou épique qu'on a l'habitude d'entendre, c'est la dimension. On va se retrouver avec des Mahabharata, par exemple, qui ont plus de 440 000 vers. On est avec des poèmes qui sont des fois dits en 99 jours, à raison de 2 ou 3 heures toutes les soirs. Donc on est avec quelque chose d'une dimension absolument redoutable. Alors, à la fois pour celui qui les porte, parce que c'est des formes qui, en plus, sont souvent données au mot près. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir une mémoire d'éléphant. On verra comment on peut mémoriser ce genre de choses. Donc, ça veut dire que c'est souvent des professionnels qui vont dire ces grands récits. Et c'est souvent des récits qui sont à la fois, je disais, fixés, mais aussi rimés. C'est-à-dire qu'on est aussi avec des espaces qui sont très versifiés, souvent. Parce que la mémoire a besoin de ça. Pour pouvoir quelque chose d'aussi fort, il va falloir le vers, la versification, la rime, va être très importante. Donc on peut dire que déjà, que sur sa définition même, il y a le mot d'épopée en lui-même, il a bien sûr une histoire comme tous les mots, on est sur un mot composite qui est épopoios en grec. Et donc le côté épos en lui-même, qui est la parole, le discours, et le côté donc poio, qui est la poésie. Donc on est même dans le discours, dans la parole poétique. Toute épopée passe par la poétique. Donc déjà, on va le différencier systématiquement. On disait des formes courtes, qui ne seront plus des épopées. On dit que l'épopée, en général, mine de rien, la plus petite qu'on connaît, c'est autour de 3000 vers. Par contre, on va aussi le différencier de l'histoire, parce que souvent, on va s'apercevoir que toutes ces grandes épopées ont des traits historiques, mais ne sont pas de l'histoire, parce que l'histoire a tendance à vouloir dire le vrai. L'épopée ne veut pas dire le vrai. L'épopée veut transmettre des choses qu'on va essayer de déterminer, mais qui ne sont pas la vérité en tant que lieu historique, en tous les cas. Donc, qu'est-ce que c'est qui a fait, à un moment donné, épopée? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on a créé des épopées? On a vu que le mythe, c'était une façon d'organiser le cosmique, tout ce qui était palpable par l'humain. Et on va s'apercevoir que l'épopée, c'est quelque chose qui est dans une autre dimension, c'est organiser le territoire, le politique, le social. On est dans d'autres dimensions qui sont là et qui sont aussi tout à fait importantes. Alors, comment elles se sont fondées? On ne le sait pas trop exactement, il y a différentes hypothèses. On pense qu'à un moment donné, par exemple, les prêtres ont sûrement associé des mythes avec des traits historiques et plus ou moins ont fondé des bouts comme ça de récits qui étaient entre les deux. Les guerriers aussi, qui racontaient leurs grands exploits, ils étaient entendus aussi par le côté populaire. Et le populaire aime bien, vous savez, synthétiser un petit peu tous ces grands faits. Donc là où, quelque part, il y avait peut-être 10 héros, on a mis les mêmes faits sur le même héros. C'était plus facile à retenir et plus facile à transmettre. D'accord ? Et donc, comme ça, petit à petit, il y a des petits bouts d'éléments qui se sont mis en place. Et là, dans ces petits bouts, on pense qu'il y a quelqu'un qui va être important, c'est le barde, c'est la aide, c'est les griots, qui, quelque part, vont récupérer ces petits bouts pour en faire quelque chose de beaucoup plus compact, de beaucoup plus complet, qui vont faire des récits beaucoup plus importants. Et ces récits, bien sûr, nous qui sommes des gens d'écriture, ils étaient avant tout donnés dans l'oralité. C'est-à-dire qu'on sait très bien, vu le nombre de variantes qu'on retrouve de toutes ces épopées quand elles sont encore assez vivantes, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui était fixé totalement. Hein. C'était fixé par rapport à une communauté. Une fois que la communauté avait fondé son épopée, c'était au mot près. Mais par contre, si d'autres communautés voulaient la prendre, elle allait changer les choses pour la rhabiller à sa façon, en fonction de ce qu'elle avait envie de dire. Hein, ce qui fait qu'on a des épopées comme ça, différentes. Même le Mahabharata en lui-même, si vous allez dans différentes régions de l'Inde, c'est pas tout à fait le même. Hein, c'est en fonction des régions, en fonction aussi d'espace que ça va bouger. Donc les Aèdes allaient fonder ça, et puis à un moment donné, il y a eu les génies des grands poètes qui sont passés à l'écriture, hein, des Ferdowsi dans l'Iran, qui a réécrit l'épopée des rois, hein, ou des gens comme Homère chez nous, bien sûr, hein, qui a mis en écriture, qui a cristallisé à un moment donné sur un moment de multiples données poétiques pour en faire un seul grand récit ou deux grands récits, en tous les cas, l'Iliade et l'Odyssée que vous connaissez bien et qui sont des épopées. Hein. Donc en fait, l'épopée, ce qui va être différent avec le mythe, qu'on a vu la dernière fois, le mythe, on a vu que c'était les dieux qui étaient les principaux acteurs. Dans l'épopée, c'est plus les dieux, c'est le héros, ou les héros. En tous les cas, l'espace héroïque est essentiel dans une épopée. Hein. Et ces héros, en général, ils peuvent être en relation avec les dieux, ça peut arriver, hein, dans certaines épopées, pas dans toutes. Hein. Mais dans l'Odyssée, par exemple, c'est évident qu'Ulysse est toujours en relation avec les dieux, qui ont tendance d'ailleurs pas trop à l'aider, pour certains, mais plutôt lui mettre du bâton dans les roues. Hein. Il y en a d'autres qui l'aident, bien sûr. Donc là, on est dans un espace qui nous trouble un peu. On se dit, est-ce qu'on est dans la mythologie ou est-ce qu'on est dans l'épopée ? On est dans l'épopée parce que, justement, le principal acteur, c'est quelqu'un qui est un homme. D'accord ? C'est pas un dieu. Même si, des fois, ces hommes ont des parties divines. On va les dire souvent mi-homme, mi-dieu. Deux, trois quarts homme, un quart dieu, hein, pour Gilgamesh. Voilà. On est dans des espaces où la partie exceptionnelle de l'être qui porte l'aventure est quand même donné aussi comme clé. Hein. C'est pas n'importe qui le héros. C'est quand même un homme exceptionnel. Hein. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez troublant dans l'épopée, c'est que souvent, bien sûr, dans l'épopée, il y a aussi des traits historiques existants. C'est-à-dire que l'épopée n'est pas non plus complètement détachée de l'histoire. Elle va souvent se servir de grands faits historiques existants pour passer à la fiction et au merveilleux. Hein, si on part, par exemple, avec Gilgamesh, ben c'est évident, ou avec l'Iliade, il y a des éléments constatables archéologiquement sur le terrain. Il y a bien des traits historiques là. Maintenant, ce que nous raconte l'épopée, ce n'est pas l'histoire. C'est autre chose. C'est une réappropriation de l'histoire. Hein. Donc, ce fait historique, ça va être en même temps un élément qui va donner une véracité, enfin une force, en tous les cas, à ce récit. Hein, c'est un espace très important aussi à ce niveau-là. Alors après, à quoi ça sert une épopée ? On a vu que le mythe, ça servait à organiser le cosmos, ça servait à mettre de la relation entre les hommes et les dieux, à penser même la fin du monde, à créer un système de pensée, hein, dans la relation au cosmique. L'épopée, on est plus dans le social, on est plus sur le territoire, on disait. Donc qu'est-ce que va faire le héros en général ? Dans ses espaces guerriers, la plupart du temps, pas dans toutes les épopées, mais dans l'espace guerrier, souvent il va conquérir un territoire. Il va légitimer le fait qu'un peuple a le droit d'être là, sur un territoire. Et ça, on le retrouve de façon assez flagrante dans beaucoup de sociétés. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand on a une société qui est en difficulté, alors vous aurez l'épopée kurde dans peu de temps, mais les Kurdes, justement, aujourd'hui, le Mame Alan, qui est leur épopée nationale, en gros, ils le racontent dans les bistrots. Parce qu'ils ont tellement de mal à justifier le fait, le droit qu'ils ont d'être là, que quelque part, ils vont raconter l'espace qui légitime ce droit-là dans l'inconscient collectif. Donc l'épopée. Hein. Et on s'aperçoit que, bien sûr, que l'épopée est souvent naissante à un moment donné, quand le peuple se considère comme unité. Toutes les grandes épopées naissent à un moment donné, quand l'histoire d'un peuple commence aussi. Hein, si vous regardez les dates de naissance des grandes épopées, c'est quand un peuple se considère comme peuple. C'est-à-dire quand il a conçu un espace de vie commune, des normes, des valeurs communes. Hein. Donc l'épopée aussi, ce qu'elle va donner la plupart du temps, c'est justement ses valeurs. C'est-à-dire que le héros, tout en combattant, ben, il y a des choses qu'il va transmettre d'entrée, c'est les codes d'honneur essentiels. Bien savoir vivre, bien savoir mourir, bien savoir aimer. Parce que dans les épopées, il y a bien sûr aussi cet espace-là. Il y a beaucoup d'épopées qui ne sont pas obligatoirement d'ailleurs dans cette violence guerrière, ou pas que dans la violence guerrière. Vous verrez, avec Mamé Alan, on est plus proche de Tristan et Iseult que ce qu'on est proche des grandes épopées de Troie. On est vraiment avec des choses où les valeurs justement données ne sont pas obligatoirement que les valeurs guerrières. Hein, quand on parle des romans courtois, on est aussi dans ce qu'on appelle la geste, on est aussi dans l'épique. Hein, la chanson de Roland est une autre épopée française, et on est dans le même endroit. C'est-à-dire que les synonymes, on pourrait dire, de l'épopée, c'est la geste, hein, les romans, les sirahs pour le monde arabe. Hein, donc il y a d'autres formes qui sont là, mais qui sont toujours au même endroit, c'est-à-dire le héros est central, et le héros conquiert et donne des codes d'honneur. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est qui va être important? C'est que le héros aussi va affirmer des choix moraux. Il va mettre en place des mœurs qui deviennent des vrais exemples. Hein. Donc si on regarde bien l'épopée, à terme, elle est avant tout un lieu de l'éducation aussi. Un lieu de la légitimation, mais aussi un lieu de l'éducation qui fait fondation de l'espace collectif, de la pensée collective d'un peuple. Hein. Et puis derrière, il y a aussi des grandes épopées qu'on va retrouver dans certains peuples, qui sont des transmissions de généalogie. C'est-à-dire aussi des grandes épopées qui vont transmettre l'histoire d'une famille. Histoire idéalisée, bien sûr. Hein. Et ça, on va le retrouver en Afrique avec les griots, qui ne sont pas des conteurs, qui sont souvent des grands généalogistes et des porteurs de l'histoire familiale. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se trouver comme constante dans les épopées? Il y a le héros, bien sûr. Il y a les actes guerriers, souvent. Même dans Gilgamesh, qui est une épopée, on l'a vu la semaine dernière, un peu différente, puisqu'il y a deux parties dans Gilgamesh, si vous voulez. Il y a la première partie où Gilgamesh va conquérir les forêts de cèdres, et donc conquérir un territoire pour son peuple, à ce moment-là, hein, même si on considère que la forêt de cèdres, c'est aussi l'espace des dieux. Hein. Mais n'empêche qu'il y a la deuxième partie, après, qui va glisser plus sur un côté de la recherche de l'éternité, l'acceptation de la mort. Mais il y a ces deux phases, souvent, dans l'épopée. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu, des fois très très complexe, où on va défendre à la fois l'acquisition du territoire et les façons de vivre, les grandes valeurs, les grands espaces moraux. Hein. Donc il y a cette constante, donc le conflit est toujours là. Il y a toujours ou l'amour ou l'amitié. Il y a au moins un de ces deux traits dans toutes les épopées. Il y a des épreuves, par définition. Hein. Et puis il y a le côté d'une mort exemplaire. C'est-à-dire que la plupart du temps, les héros ne finissent pas très bien dans les épopées. Hein. Mais par contre, il y a toujours une mort fabuleuse. Hein, si un jour vous relisez l'épopée d'Antar, qui est une épopée arabe magnifique, à la fin, tout le monde a tellement peur d'Antar que Antar sait qu'il va mourir, mais il ne faut surtout pas qu'il tombe. Et donc il s'attache à sa selle, il sait qu'il sera mort, mais il s'avance vers l'ennemi pour lui faire peur. Même en mourant. Hein. Donc on est là dans une mort épique, justement, tout à fait fabuleuse. C'est-à-dire qu'on est toujours dans des morts comme ça, très, très... C'est pas des morts dans le lit. Hein. C'est toujours assez hard au niveau de la fin d'un héros, sauf dans quelques épopées, on verra lesquelles, mais qui sont un peu plus souples, disons. Mais souvent, la mort du héros est très, très forte. Hein. Voilà, donc on peut dire qu'il y a soit une mort exemplaire, soit le sacrifice du héros, hein, qui va aller jusqu'à se sacrifier pour pouvoir sauver son peuple. Et le dernier point qu'on va trouver, c'est l'échec enrichissant. On ne va pas jusqu'au bout, Gilgamesh. Gilgamesh, quelque part, n'arrive pas à avoir même cette herbe de l'éternel, de la vie éternelle, mais qui, quelque part, va, à un moment donné, accepter l'humanité et donc devenir un roi conscient de ce que dont l'humanité a besoin. Hein. Donc, on peut dire que l'épopée, bien sûr, il y a toujours ces éléments-là. Après, ce qui est intéressant avec l'épopée, c'est de savoir qui la porte. Parce que c'est quand même des êtres d'exception qui portent l'épopée, c'est des êtres hyper puissants. Hein. Il faut penser que dans notre tradition, c'était les bardes, par exemple, hein, et que les bardes étaient... il y avait des écoles bardiques qui duraient très longtemps. Hein, donc il y avait le barde qui commençait, on appelait ça le barde à la pomme. Lui, quand il racontait, on lui donnait une pomme. Mais il ne connaissait pas grand-chose encore. Il était dans une toute petite fraction de connaissances. Hein. Et puis, à l'opposé, vous aviez le barde royal qui lui racontait une fois de temps en temps, mais chaque fois qu'il racontait, on le payait à coup de troupeau de bœufs. Hein? Alors, cette puissance-là, il avait pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écriture et qu'ils étaient garants de la mémoire collective du peuple. sans leurs paroles, sans le fait de remémorer de temps en temps ce qui faisait sens pour tout le monde, la société s'éclatait. Donc, quelque part, ils étaient garants de cette cohérence. Ils étaient garants de quelque part, des socles même de fondations sociales, des fondations politiques, des choix politiques, des choix moraux. Leur boulot, c'était de faire en sorte que cette épopée soit efficace. Et donc, on a eu beaucoup de parts qui refusaient le passage à l'écriture parce qu'ils disaient « Mais l'écriture, c'est quelque chose de mort. Qui est-ce qui va vraiment porter le sens de ces grandes épopées ? Ce n'est pas dans le livre que le sens se trouve. Il faut passer à autre chose pour que le sens se mette en place. » Donc, ils ont combattu l'écriture pendant très longtemps autour de ces épopées. Donc, il y avait ce sens-là. Puis, il devait sûrement y avoir le fait qu'ils allaient perdre aussi de leur puissance en tant que porteurs de barbe si, quelque part, il y avait une sauvegarde autre de ces grands textes. Je pense qu'il y a aussi cette dimension. Donc les bardes, à ce niveau-là, mais on a aussi, en dehors des bardes, on va avoir aussi les aèdes, dont on a entendu parler, les grands porteurs des épopées homériques. C'est-à-dire qu'avant même l'épopée homérique, il y avait des aèdes qui racontaient, qui tissaient, qui composaient les épopées avec des choses qu'ils avaient entendues autour d'eux, qui arrivaient à trouver des récits. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'intéressent sur la part orale de ces grandes épopées. À l'université de Montpellier, il y a une équipe qui travaille là-dessus, sur l'oralité de l'Odyssée. Donc on retrouve des versions, plus ou moins, qui nous font bien entendre la part de l'oralité. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les épopées n'étaient jamais racontées en entier. Ou rarement. Il fallait vraiment qu'il y ait un moment exceptionnel, parce qu'à écouter 20 heures d'épopée, il fallait avoir des sacrées oreilles. Mais par contre, l'aède ou le barde donnait toujours la globalité du récit en résumé. C'est-à-dire que même s'il ne racontait qu'un tout petit bout, il le resituait systématiquement dans le tout. Et ça, sinon, on ne peut pas comprendre une épopée si on extrait un petit moment. On est dans des choses qui deviennent comme le mythe. Quand on n'a qu'un petit bout du mythe, on est dans l'anecdote. On ne peut pas lire le système. Et autant le mythe que l'épopée, c'est des grands récits qui ne peuvent être lisibles que quand on connaît le système global. Donc je dirais que ça, à terme, même pour vous, si un jour vous devez vous affronter un petit peu à ce type de récit, lisez la table des matières, lisez les champs, le résumé des champs, mais ne commencez jamais à lire des petits bouts, parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre. Si vous avez à enseigner à des élèves, donnez d'abord le résumé. Et puis quand vous commencez à prendre un champ, ils savent exactement où ça se trouve. Et donc ça fait sens dans la globalité, pas dans l'extrait. Donc les aèdes étaient à la fois des porteurs, mais des compositeurs aussi. C'était pas que des gens qui racontaient. D'accord ? Par contre, des gens qui ne faisaient que raconter, c'était des rhapsodes. Et on a eu des études qui ont été faites dans le monde roumain, où on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient capables de dire dans une soirée 4000 vers, ça posait aucun problème, par cœur. Voilà. Donc ces gens, c'était des récitants, là, par contre. Eux, ils n'inventaient pas, ils ne faisaient qu'apprendre par cœur et restituer les rhapsodes. Dans le monde africain, on a les griots, bien sûr, qui sont des professionnels, c'est des castes. C'est-à-dire qu'on commence le travail du griot, on commence à apprendre à travailler la parole et les mots à 3 ans. Et on va le travailler toute sa vie, en fait. Voilà. Et puis dans les sociétés qui sont plus asiatiques ou autres, il y en a quelqu'un qui est le porteur, c'est le chaman. Le chaman qui, pour faire ses voyages dans les âmes, dans les autres sphères, en fin de compte, de la réalité humaine, a besoin de connaître les mythes et les épopées, parce que sinon, il sait sa carte. S'il n'a pas ça, il ne peut pas se diriger. C'est un lieu de sa carte, en tant que tel. Voilà, donc l'épopée, premier élément, la mémoire. C'est-à-dire qu'on veut partir sur l'épopée, d'accord, il faut avoir une sacrée mémoire, une sacrée technique de mémoire. C'est pour ça que toute épopée, je disais tout à l'heure, est versifiée, mais c'est pour ça aussi que tout porteur d'épopée se sert d'une mémoire kinésique, d'une mémoire corporelle. C'est-à-dire que vous verrez les porteurs d'épopée ou être dans un mouvement de ce côté ou d'un autre, ou dans un balancement, dans une rythmicité, parce que le corps en lui-même va aider à fixer cette mémoire. C'est un peu comme dans les écoles coraniques. C'est-à-dire apprendre par cœur, ça nécessite en même temps une rythmique, un souffle. Et puis il y a la part de l'oralité, c'est-à-dire que dans la part kinésique, il y a une chose qui va se passer qui est très importante, c'est que quand on dit, c'est pas que comme quand on regarde. Vous avez une mémoire du souffle, vous avez une mémoire de la vibration des cordes vocales, vous avez la mémoire de la résonance dans la bouche, la mémoire du corps, de son énergie. Et ça, c'est autant d'éléments mémoriels qui vont être importants pour les grands récits de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est des sensations et des émotions qui sont des fois plus importantes que les mots eux-mêmes. Donc cet espace de technique, bien sûr, c'est des professionnels qui vont les acquérir, et ça s'apprend petit à petit. Moi, j'ai envie de parler là, à ce moment-là, des porteurs contemporains, parce qu'il y a des conteurs aujourd'hui qui portent des épopées. Pas beaucoup, parce que c'est des chantiers. Donc, il y a Bruno de La Salle qui avait créé, il y a quelques années, l'Odyssée. L'Odyssée, dans son intégrale, c'est 7 heures. Donc déjà, il faut trouver un public qui accepte d'écouter 7 heures d'épopée. Ça existe, mais bon, ça veut dire qu'il faut se préparer un peu. Et puis aujourd'hui, on a Djihad, qu'on va recevoir là, vendredi. Qui vient à nous raconter l'épopée du Mamet Alan, et qui, lui, bien sûr, a déjà travaillé aussi sur l'épopée de Gilgamesh, et qui aime bien beaucoup, qui aime bien ce type de récit. Donc, Djihad Darwish, qui est d'origine libanaise, qui s'est aussi frotté à des épopées populaires, du coup. Je sais qu'une fois, il me disait, la première fois que j'ai entendu Gilgamesh, c'était dans un bistrot, à Beyrouth. C'est pas dans les spectacles. Là, c'est vraiment dans le côté populaire que ça se dit. Donc on est vraiment dans un espace qui nous paraît très complexe et très savant, alors qu'en réalité, l'épopée, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un art populaire la plupart du temps. C'est un art qui est porté par la population. On a eu une expérience l'an dernier en Saint-Gilles, où les organisateurs étaient très, très apeurés de se dire qu'on allait raconter le geste hilalien. Donc c'est la grande geste qui raconte l'histoire de l'invasion du nord de l'Afrique par les Arabes. Il s'est dit, mais c'est trop savant, ça ne marchera jamais. On avait des femmes marocaines et algériennes qui étaient devant, elles en ont pleuré. C'était tout ce qu'elles avaient entendu dans leurs enfances, elles se rappelaient de moments entiers qu'elles connaissaient par cœur de cette geste-là. Donc on n'est pas dans l'espace du savant, on est bien dans l'espace d'une poésie populaire que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans certaines sociétés où des gens sont capables de vous dire par cœur des chants entiers. Parce que c'est vraiment un espace qui leur parle. Complètement. Voilà. Donc c'est un élément, bien sûr, qui pour nous est très complexe, parce qu'on n'a plus l'habitude d'écouter la poésie. On a l'habitude de la lire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on se laisse bercer dans cette espèce de psalmodie, parce que c'est vraiment ça, l'épopée aussi, c'est une psalmodie, il y a un premier temps de répulsion, parce que souvent on se dit, oulala, où c'est qui veut nous amener là? Mais si on est capable de lâcher prise, je peux vous dire que vous entendez quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Moi, je sais que le travail de Bruno de La Salle, j'ai eu la chance d'écouter les 7 heures. On perçoit le récit comme jamais on l'a entendu si on se laisse partir dans le rythmique et dans ce que savaient faire les anciens. Ce qu'on ne sait plus faire, mais on a beaucoup de mal à lâcher prise sur des espaces comme ça. On a plutôt la tendance à chercher un moment de l'oubli quand on écoute quelque chose de la consommation, que l'endroit où on est dans le rythme avec celui qui transmet. Donc après, ça veut dire que ces épopées, elles n'ont pas toujours été faciles à trouver ou à traduire. On parle aujourd'hui de l'épopée de Gilgamesh comme si elle avait toujours été là. Oui, elle a toujours été là. C'est une épopée qui a 3000 ans, en gros. Avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc elle a 5000. C'est l'épopée la plus ancienne qu'on connaisse, en fin de compte, avant même le Mahabharata. Avant même l'Odyssée, bien sûr. Mais ça veut dire que quelque part, elle nous a été interdite jusqu'au XIXe siècle, parce qu'on ne savait pas lire les motifs cunéiformes, tout simplement. Et que c'est un chercheur allemand qui s'appelait Grotefend, qui a trouvé les clés de lecture de cette écriture. C'était en 1840. Donc c'est pas si vieux, notre accès à cet espace-là. Et puis il y a aussi beaucoup d'épopées. Et là, on va en parler d'une en particulier, qui est le Kalevala, qui n'existe que par bribes. C'est-à-dire, quelque part, qui ne sont que des bouts mémorisés, que quelques personnes connaissent. Alors, le Kalevala, c'était le cas. Si vous pensez que la Finlande, donc c'est une épopée finlandaise, n'avait même plus de langue pendant très longtemps. Elle parlait suédois, elle parlait le russe, elle parlait... mais il n'y avait plus de langue, il n'y avait pas d'identité nationale. Et il y a un monsieur qui s'appelle Elias Lomroth, L-O-T-R-O-T, qui quelque part va commencer un travail de fou, parce qu'il va y passer sa vie en fait, à essayer de collecter des bribes de cette épopée. Donc il va se balader surtout en Carélie, c'est la Carélie qui était à l'époque pas finlandaise, mais qui était russe encore, où là il va trouver des bardes qui vont lui redonner des petits bouts de cette épopée, et il va en trouver un moment donné qui lui donne un grand morceau d'épopée, Et là, il arrive à un moment donné avec, alors la première chose qu'il hésite, c'est 12 000 vers, en se disant, bon, je suis au complet là. Ça devenait un peu cohérent tout ce qu'il avait pu toucher. Hein. Puis il se dit, bon, par acquis de conscience, je vais quand même continuer à collecter un petit peu. Hein. Et continue à collecter, et on arrive à la version finale aujourd'hui, 22 800 vers, 50 chants. D'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que du moment que cette épopée est connue, il y a une langue, il y a un espace de l'histoire nationale, enfin, du tout cas, de l'inconscient collectif national qui se met en place, et ça va relancer la langue finlandaise, ça va relancer l'identité nationale. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si vous allez en Finlande, dites jamais du mal de Kalevala, parce que vous êtes sûr de vous faire agresser carrément. Ça fait partie vraiment de quelque chose qui est constitutif, hein, d'un espace national. Voilà. Donc on est là dans quelque chose qui est tout à fait récent, pareil, au niveau de comment on recollecte, comment on compacte. Hein. Il y a des épopées qui ont toujours été portées, d'autres pas. Et donc on est vraiment là dans quelque chose qui est, pour beaucoup d'épopées, qui sont connues depuis très peu de temps, parce qu'on n'avait pas de traduction disponible, pas de possibilité de l'avoir dans une intégralité. Hein. Alors en anthropologie, on connaît bien ça, on se retrouve avec, par exemple, les grandes épopées africaines, on les connaît depuis très peu de temps. Le Sundiata, ben, il fallait commencer à comprendre la langue guinéenne, il fallait commencer à avoir les enregistreurs, parce que sinon on n'arrivait pas à comprendre ce qui se disait réellement. Hein. Et le Sundiata, on a des gens comme Jacques Gaudy, qui est un grand anthropologue anglophone, qui l'a collecté, je ne me rappelle plus en quelle date, peu importe, dans un premier temps, et qui l'a collecté 20 ans plus tard, dans la même société, deux phrases de changer, pas d'écriture. On avait quelque chose qui est complètement fixé. Donc les peuples qu'on considérait comme des primitifs, on se rend compte qu'ils sont capables de faire une composition poétique absolument fabuleuse, une fois qu'on l'a traduit, capables de mémoriser et de dire plusieurs centaines, plusieurs dizaines de milliers de vers dans une simple mémoire orale. Hein. Donc on est dans des espaces aussi où on redécouvre des espaces qui sont différents des nôtres, hein, mais qui sont quelque part qui vont nous obliger à revisiter des peuples dans ce qu'on pensait être des peuples en devenir et qui ne sont pas du tout en devenir, qui sont déjà avec leur culture, mais qu'on ne comprenait pas, tout simplement. Donc l'épopée, entre autres, a été un moyen de redécouvrir d'autres cultures, hein, d'être vraiment des moteurs à aller dans d'autres cultures. Donc aujourd'hui, on a encore des recherches qui se font au niveau de l'épopée, hein, parce que ce n'est pas fini, on a encore des épopées à trouver. Donc il y a une personne qui s'appelle Nicole Revel, qui travaille pour l'INALCO à Paris, qui est l'Institut national des langues orientales, et qui travaille avec une quarantaine de chercheurs, justement, auprès des chamans, pour récupérer surtout les épopées asiatiques, qu'on connaît très mal. Il y a énormément d'épopées encore sur le monde asiatique qu'on ne connaît pas du tout. Voilà. Et on s'aperçoit qu'il y a encore une richesse fabuleuse à découvrir, même au XXIe siècle. Il y a encore des trésors de littérature à capter. Alors après, quelles sont les grandes épopées? Puis après, on fera comme d'habitude, je vous laisserai la parole, on essayera un peu de discuter. Ben, Gilgamesh, vous le connaissez, épopée sumérienne, bien sûr. On a l'Iliade. Je vous en fais plus de dessins, l'Odyssée, bien sûr. En France, Chanson de Roland, hein, que vous connaissez. En Espagne, ah, vous l'avez tous appris en classe. La chanson de Mon Cid, le Cid. Le fameux Cid, hein, qui est quelque part la grande épopée espagnole. Hein, ce fameux seigneur qui est, parce qu'on lui a chargé quelque chose sur le dos et vraiment renié par le roi, qui va partir et qui va reconquérir des villes, les unes après les autres. Et chaque fois, il envoie des chevaux. Au départ, il envoie 100 chevaux. Après, il en envoie 200. Il envoie 300 rois pour se faire pardonner. Hein? Donc, on est vraiment là sur une épopée vraiment aussi très importante et qui recoupe d'autres épopées de Roland. C'est intéressant de voir comment deux épopées se répondent, comment ils font écho. Parce qu'on est avec la lutte contre les morts, avec les Sarrasins. Autant chez Roland et Charlemagne qu'avec donc le Cid. Hein? On est vraiment sur des espaces où, en même temps, le fait historique est toujours là. On peut, en suivant cette épopée du Cid, voir quelles étaient les villes, par exemple, et qui étaient les grands seigneurs avec qui. On a même des associations avec les morts pour pouvoir combattre d'autres morts. C'est très particulier, et on comprend les systèmes de complicité qu'il pouvait y avoir en dehors de la chrétienté et du monde de sarrasin sur des espaces. Hein. Donc là, l'histoire carrément ressurgit, même si on ne l'a pas en tant que date, en tant que héros réel, On a plein de clés historiques qui nous sont données dans ces deux épopées quand on les lit en parallèle, par exemple. Hein. On a, par exemple, une très belle épopée, sûrement une des plus anciennes du monde européen, c'est le Beowulf. C'est une épopée qu'on retrouve en Angleterre, écrite dans le vieil anglais, hein, mais qui ne nous parle que du monde scandinave ou suédois. Hein, là, c'est pareil, c'est des combats avec des monstres, c'est un espace... Donc là, c'est une épopée, en gros, qui est de l'ordre du XIIe siècle. Hein. Mais on va s'apercevoir dans le monde occidental et même dans le monde oriental, beaucoup d'épopées naissent entre le Xe et le XIIIe siècle. Alors on peut se poser la question du pourquoi, en fait. Hein. Mais on s'aperçoit que c'est surtout là que les sociétés se structurent. On s'aperçoit que là, carrément, que la petite féodalité est en train de disparaître pour laisser plus ou moins place à des États plus importants. Donc là, on a besoin d'épopées aussi, à ce moment-là, hein, pour faire des grands cadres politiques et pour mettre des idéologies politiques en place. Donc en Angleterre, on a aussi en Pays de Galles le Mabinogion, hein, qui est un pareil, là c'est des grands espaces, c'est des grands contes. Hein, ça ressemble à des contes, mais en réalité, pareil, on retrouve des traits historiques derrière. Hein. Donc tous les grands textes de l'Irlande, il y a des grands textes épiques qu'on ne connaît pas trop bien, parce qu'il faut penser que l'Irlande, c'est 5e siècle, c'est des moines qui collectent auprès des druides, qui étaient aussi des porteurs d'épopées, des bouts d'épopées. Donc on a des petites traces qui nous restent dans l'Irlande, mais c'est des épopées à trous. Hein, c'est des épopées où on n'a pas tout. Donc il y a les grandes épopées de Cuchulainn, le chien rouge, hein, bien sûr, le grand héros irlandais qui sera toujours là présent. En Allemagne, une épopée qui a fait beaucoup d'encre et qui a fait aussi jouer beaucoup de musiciens et d'opéra, le Nibelungen, hein, qui a été réexploité, bien sûr, par la manne nationaliste hitlérienne, carrément. Hein, mais aussi qui a été un vrai endroit d'inspiration de Wagner. Hein. Donc là, c'est pareil, quand on relit le Nibelungen, il faut arriver à effacer un petit peu tout ça pour le relire dans sa dimension épique, et on s'aperçoit que, bien sûr, on est tout à fait autre chose. Hein, le Nibelungen, c'est vraiment l'histoire des Germains. Et ce n'est pas obligatoirement que l'espace nationaliste. Hein. Donc là, j'en profite pour dire qu'une épopée peut être aussi tordue, peut être aussi récupérée à un moment donné dans des mouvements qui ne sont pas toujours les plus louables. Hein? Parce que quelque part, ils sont aussi très chargés symboliquement, donc manipulables par définition. Hein? Le Kalevala, je viens de vous le donner. En Arménie, une très belle épopée qui s'appelle le David de Sassoon, hein, qui est une épopée magnifique. Grande épopée de Byzance, le Digenis Akritas. Hein? Donc il faudrait que je vous raconte toutes ces épopées, mais ça fait beaucoup de choses. Hein? Voilà. Donc, je ne vais pas vous en faire une liste, mais par exemple en Égypte, l'épopée de Baïbar. Il y a un projet d'édition sur l'épopée de Baïbar. Je crois qu'au CME, on doit en avoir une dizaine de volumes. Il y en avait 14 de prévus. Donc c'était la fameuse épopée qu'on racontait à raison de 2 heures ou 3 heures par soir pendant 99 jours. Hein, c'était des épopées qui sont des vraies... on n'en finit jamais. Ça ne finit pas. Hein. La fameuse geste italienne, le Mahabharata, le Ramayana, hein, qui est aussi une épopée qu'on connaît moins, qui est plus facile à lire. Parce que le Mahabharata... Faut s'y accrocher. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Bon, déjà, c'est 440 000 vers. Mais c'est surtout derrière qu'il y a tous les grands traits mythologiques qui sont fondus dedans. Hein. Donc, c'est très complexe d'aller relire le Mahabharata. Par contre, il y a quelque chose que je vous conseille, si vous voulez relire le Ramayana et le Mahabharata. Alors, je n'ai pas pris l'édition, mais peut-être vous l'aurez sur la bibliographie. Il y a deux éditions qui ont été faites qui sont magnifiques, de comment c'est raconté au niveau populaire. C'est-à-dire que c'est comment les conteurs le racontent. Alors là, pour nous, c'est beaucoup mieux. Parce que eux, ils simplifient, c'est raconté aux enfants, du coup. Hein. Voilà, donc ils nous donnent des pistes. Alors quand on veut aborder des grands récits comme ça, c'est intéressant d'aller voir comment on le raconte aux enfants. Ça nous donne déjà les grands cadres. Et puis après, d'aller le relire dans les versions intégrales brahmaniques. Hein. Mais déjà, ça vous donne des clés tout à fait intéressantes. Voilà, donc il faudrait aller au Japon avec le Dideike, hein, comment justement le Japon nous raconte dans les grandes épopées les mutations qui vont de la petite féodalité à des choses beaucoup plus importantes, les combats entre les grandes castes. Hein. On peut aller jusqu'à l'Iran avec le livre des rois, le Chamamé, hein, qui est aussi une très très grande épopée. Jusqu'en Géorgie, on peut aller... Tous les peuples ont, pour ainsi dire, créé des épopées, sauf, intéressant, les peuples qui n'avaient pas de notion de territoire en tant que propriété, les Amérindiens. Les Amérindiens ne vont pas faire d'épopée tant que les Blancs ne sont pas là. On va avoir les grandes épopées après, quand il y a dispute sur l'espace territorial. Mais pour eux, dans leur conception, la terre ne peut pas appartenir à qui que ce soit. Donc il n'y a pas d'épopée. Il n'y a pas de popée, il n'y a pas nécessaire d'avoir un héros qui conquiert le territoire pour le légitimer. Hein? Chez les Inuits, pas d'épopée. On est dans des espaces comme ça où, bien sûr, s'il n'y a pas de dimension de propriété de la terre, il n'y aura pas d'épopée. Hein? Donc on est bien là dans quelque chose aussi qui nous parle bien, hein, dans cet espace-là, qui est vraiment ce champ-là. Voilà ce que je